Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des outils qui nous aident à décrire le monde. Je parle bien sûr des grandeurs physiques et de leurs unités.
Oui, bonjour. On va s'appuyer sur les documents que nous avons pour décortiquer un peu le système international d'unités, le fameux SI.
C'est ça. C'est un peu comme un langage commun pour la science, n'est-ce pas? L'objectif, c'est de comprendre sa logique, des bases jusqu'aux choses un peu plus complexes.
Tout à fait.
OK, alors allons-y. Un point qui m'a semblé vraiment central dans ces notes, c'est cette distinction nette entre deux types de grandeurs.
Oui, absolument. Il y a d'un côté les grandeurs fondamentales. On peut dire que ce sont les piliers du système.
Les fondations.
Exactement. Et de l'autre, les grandeurs qu'on appelle dérivées. Celles-ci, elles sont construites à partir des premières. Le système international, il en reconnaît 7 comme fondamentales.
Oui, les notes les listent bien, là. La longueur avec le mètre, la masse en kilogrammes, le temps en secondes, et puis il y a aussi l'intensité électrique, l'ampère, la température en kelvin.
C'est ça. La quantité de matière aussi, la mole, et l'intensité lumineuse, la candela.
Mais qu'est-ce qui fait qu'elles sont si fondamentales? Pourquoi celle-là et pas d'autres?
Leur caractère fondamental, il vient d'une convention, en fait. On a décidé de les considérer comme indépendantes les unes des autres.
D'accord.
Elles constituent la base minimale, à partir de laquelle on peut exprimer toutes les autres grandeurs physiques. C'est pour ça que leur définition doit être hyper précise.
Ah oui?
Oui, prenez le mètre, par exemple. Ce n'est plus une barre métallique quelque part. Non, non. Maintenant, c'est défini par rapport à la distance que parcourt la lumière dans le vide.
La fameuse velocità della luce nel vuoto s'est mentionnée.
Exactement. Ça ancre la définition dans une constante physique universelle. C'est beaucoup plus stable. Et bon, le kilogramme, lui, reste l'unité de référence pour la masse.
Et pour le temps, la seconde est l'unité de base du SI, mais les documents rappellent qu'on utilise tout le temps les minutes, les heures.
Les millisecondes, oui.
Oui, ou les microsecondes. Ça montre bien qu'il faut choisir la bonne échelle selon ce qu'on mesure, en fait.
Tout à fait. Ces unités de base, ce sont nos briques, si on veut. Mais alors, comment on fait pour décrire, la vitesse, ou l'air d'une surface, ou la densité d'un objet? Ça, c'est pas dans la liste des 7.
Heure dérivée. Les notes utilisent le terme italien grande physique et derivate.
C'est ça.
Les exemples comme l'air en mètres carrés, m carré, ou le volume en mètres cubes, m cube, bon, ça se voit assez bien comment ça dérive de la longueur.
Oui, c'est assez intuitif.
Mais la vitesse ou la densité, c'est aussi des grandeurs dérivées, donc.
Précisément. Et le point clé, c'est que leurs unités sont toujours des combinaisons logiques des unités de base.
Ah d'accord.
Prenez la densité. C'est la masse divisée par le volume. Hein?
Oui.
Donc son unité dans le SI, ça va être des kilogrammes divisé par des mètres cubes, kilogrammes par mètre cube. On voit bien la dérivation. Masse, kilo, et longueur, mètre à la puissance 3 pour le volume.
C'est clair.
C'est directement lié à ce que les sources appellent les dimensions physiques. Chaque grandeur a comme une signature qui dit de quelle grandeur fondamentale elle est faite. Et il y a aussi cette idée de définition opérationnelle.
Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Ça veut dire qu'une grandeur, elle n'est pas juste définie abstraitement, mais aussi par la méthode concrète pour la mesurer. C'est important. Par exemple, on définit la masse aussi par l'opération qui consiste à utiliser une balance pour la comparer à l'étalon.
D'accord. Donc l'unité dérivée, comme le kilogramme par cube, pour la densité, nous dit comment la grandeur est fabriquée à partir des briques de base. C'est ça?
C'est très parlant comme approche.
Et ce qui est vraiment fascinant là-dedans, c'est la puissance de cette standardisation apportée par le système international.
L'universalité. L'universalité et la cohérence. Ça permet aux scientifiques du monde entier de se comprendre, de comparer leurs résultats. Imaginez un peu le bazar si chaque pays, chaque labo, utilisait ses propres unités homme-monde.
Ce serait impossible de travailler ensemble.
Exactement. Les sources mentionnent aussi rapidement les constantes physiques, ces constantes physiques, qui sont des nombres clés dans les lois de la nature, et les numéros pourreaux, les nombres sans dimension, comme un simple rapport.
Oui.
Toute cette standardisation, ce n'est pas juste pratique. C'est vraiment un pilier de la science moderne. Ça permet la collaboration, la vérification, bref, le progrès.
Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a ce système, le SI, bien standardisé. Il repose sur un petit nombre d'unités fondamentales, mètres, kilogrammes, secondes, etc.
C'est ça.
Et à partir de là, on construit, de manière logique, toutes les autres unités, les unités dérivées, comme le mètre carré, le kilogramme par mètre cube, pour pouvoir décrire et mesurer à peu près tout ce qui est physique.
Tout ce qui est mesurable, oui.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Finalement, c'est un peu la grammaire et le vocabulaire de base qui permettent à la science de parler du monde physique et de le faire de façon précise et universelle.
Tout à fait. Et peut-être pour lancer une petite piste de réflexion pour aller un peu plus loin que ce qu'on a dit, on pourrait se demander comment cette analyse des dimensions physiques, juste vérifier que les unités collent dans une équation, peut devenir un outil super puissant.
Ah oui, comment ça ?
Bah, pas seulement pour vérifier un calcul, hein, mais parfois même pour avoir une intuition sur la forme que doit avoir une loi physique, avant même de l'avoir démontrée expérimentalement, juste en jouant avec les dimensions.
Intéressant.
Ou alors un autre exemple, en lien avec un terme comme température d'équilibre qui est dans les notes, comment ce système d'unités fondamentales et dérivées nous permet de bâtir des modèles mathématiques pour comprendre des phénomènes complexes, comme comment deux objets à des températures différentes finissent par atteindre la même température quand on les met en contact.
Oui, comment on modélise cet équilibre thermique ?
Voilà, ça montre bien que ces concepts de base, qui peuvent paraître simples au début, ouvre en fait la porte à des compréhensions très très fines des phénomènes naturels.